La Max balance lentement dans le vent en fait créé par l'avance du bateau. Voilà, c'est calme.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, le plaisir de vous emmener en Amazonie péruvienne avec nos invités et la suite des carnets de route de Stéphane Herzog.
C'est l'Eduardo III qui va partir à midi, on pense, mais il faut partir au porto à gagner les sites vers 11h.
Donc on se trouve avec Carlos au port de Yurimaguas.
Oui, nous trouvons à la sortie des deux rivières. De côté gauche, c'est la rivière Paranapura. Et de côté droite, c'est la rivière Huallaga. Donc après, on va voyager vers Lagunas pendant 2 heures. Et on va, nous descendons là-bas, mais la rivière, il rejoindre le Marañón. Le Marañón, plus loin, vers Nauta, il rejoindre le Ucayali, et ça, se forme l'Amazonas, la grande rivière Amazonas.
Donc on va descendre le fleuve.
Oui, tout à fait, on va descendre. Et maintenant, selon l'époque, comme maintenant c'est la saison des pluies, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau dans la rivière et ça va permettre que les bateaux marchent avec vitesse.
Alors le bateau qu'on va prendre, il est à destination de Iquitos.
Iquitos, il marche vers Iquitos, il amène en fait d'abord la nourriture, il amène des vaches aussi, il amène beaucoup de choses pour là-bas, mais il amène des gens aussi. Donc les bateaux, en fait, c'est les moyens de transport les plus anciens ici dans l'Amazonie.
Bienvenue à bord du Eduardo numéro 3. C'est le nom du bateau qui relie, un des bateaux en tout cas, qui relie Yurimaguas, là où la route se termine, à Iquitos, ville de près de 400 000 habitants, accessible uniquement par air ou par bateau. Iquitos, capitale de cette immense région du Loreto, on le rappelle, au nord-est du Pérou, en Amazonie péruvienne. À bord du Eduardo numéro 3, Stéphane Herzog et son guide Carlos Palomino. Et puis aujourd'hui, pour nous accompagner dans cette descente de ce fleuve Huallaga, un explorateur, un vrai, Pierre Dubois, bonjour.
Bonjour Cyril.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnologue, cinéaste, conférencier et puis je l'ai dit, vrai explorateur parce que ça fait 40 ans maintenant que vous parcourez les endroits les plus reculés du monde, les volcans les plus dangereux, les jungles les plus épaisses, les canyons les plus profonds. J'exagère à peine, hein. Et puis l'Amazonie, cet immense bassin amazonien qui s'étale de la Bolivie au Venezuela, de l'Équateur au Brésil, une région quasi aussi grande que l'Europe. L'Amazonie, que vous connaissez bien, vous y êtes allé la première fois en 1972. C'était une grande expédition, vous nous la raconterez en seconde partie d'émission. C'est là où vous avez réalisé votre premier long métrage, tourné en 16 mm, 13 mois de voyage en solitaire auprès des Indiens. Vous êtes retourné combien de fois ensuite en Amazonie, dans cette région ?
Alors écoutez, depuis cette première fois qui m'a été, j'ai été marqué au fer rouge, vous pouvez l'imaginer, à l'époque j'avais 23 ans, j'ai toujours 23 ans, vous le savez bien, eh bien j'y suis retourné plus d'une trentaine de fois.
Dans tous les pays, dans tous les coins ?
Ouais, dans tous les coins, en tout cas les coins qui sont hors des sentiers habituels. Pourquoi ? Car j'essaye de revivre les dernières grandes aventures humaines, et ces aventures humaines se situent hors des sentiers battus, bien sûr. Mm-hmm. J'essaye de revivre ces dernières grandes aventures avant qu'il ne soit trop tard.
Alors là, on est sur ce bateau, vous l'entendez, on l'entend. Si vous fermez les yeux, que vous écoutez ce son, qu'est-ce que vous voyez ?
Alors d'abord, je perçois quand même un son qu'on n'entend pas très bien, mais il y a un fond sonore énorme en Amazonie, avec les insectes, les cigales, les oiseaux, tous les coléoptères. Donc vous avez ce son qui vous tient et qui vous fait comprendre que vous êtes dans un autre monde. Pour longtemps, j'espère, car puis suite à la déforestation, tout ça est caduque, puisqu'il n'y aura plus de forêt, plus d'animaux, plus rien. Quand on fait tomber un arbre, une centaine d'insectes disparaissent. Je ressens sur ce bateau des frissons, car c'est les plus grands moments amazoniens, c'est ceux de se trouver sur un bateau. Ce moment-là, le hamac, c'est d'abord l'instrument de base. Si vous n'avez pas ça dans vos bagages, vous êtes mort. On ne dort pas sur le sol dans cette partie du Pérou. Ensuite de ça, il y a le balancement créé par l'avance du bateau, et puis il y a cette ambiance donnée par la forêt qui vous borde, parce qu'au bord de ce rio que je connais de loin, et il y a énormément d'arbres, avec les arbres plus grands qui atteignent facilement 50-60 mètres de hauteur, qu'on appelle les fromagers, avec des racines latérales, et dans ces racines énormes, eh bien les Indiens sortent à la machette de grands disques pour en faire des ciels de cases qui sont déposés au sommet de cases. Je ressens également des parfums, des odeurs de bois mouillé, de bois sec, de bois en train de donner des parfums, de parfums qu'on utilise aujourd'hui dans les grandes pharmacies, telles que les grands produits pharmaceutiques pour la chimie, mais également comme des firmeniches à Genève ou encore des givaudans qui vont s'inspirer, ils vont chercher des odeurs
de l'Amazonie.
De l'Amazonie, voilà. Je ressens tout ça, mais vous savez, je ressens aussi une certaine un silence, une sérénité, car la région le permet. Elle n'est pas touchée par les déforestations à outrance qui existent ailleurs, et ce sont des moments de bonheur quand même, en étant dans mon hamac sur ce bateau en train d'avancer vers un inconnu.
Vous êtes attentif aux personnes autour de vous quand on est dans un univers comme celui-là. Là, c'est un bateau de transport, donc il y a des Indiens, il y a des personnes, il y a des habitants. Ou bien est-ce que vous vous refermez sur vous-même ?
Non, je suis attentif à tout. Vous savez, on a des yeux, des oreilles, on a un nez, et tout ça fait partie de l'individu. Et puis je suis en terrain, j'allais dire, ennemi, je ne suis pas chez moi. Mais c'est tellement extraordinaire que de pouvoir suivre, monter en fonction des crues et des décrues du fleuve et des saisons des pluies. Et quand on parlait de saisons des pluies, il y est là, ce bateau. Il y a des tonnes d'eau, et ne mettez pas ni votre pied, ne tombez pas à l'eau parce que vous êtes mort. Et c'est un fleuve qui n'est pas si large que ça, si bien qu'il y a un débit énorme, et le bateau a quand même peut-être pas mal de peine, et il doit suivre la berge pour ne pas être freiné. Il ne remonte pas évidemment à contre-courant au milieu du fleuve, en descente si. Mais je ressens des moments énormes, et comme je vous l'ai dit, j'ai les frissons, car c'est les plus grands moments, les plus beaux moments de ma vie sont ceux passés en Amazonie.
Eh bien, on en parlera avec vous, Pierre Dubois, ce sera une seconde partie d'émission, parce que là, on va y retourner sur ce bateau avec Stéphane Herzog et Carlos Palomino.
Eduardo numéro 3, c'est des grands bateaux plats, et il y a des vaches dans un enclos qui sont posées directement dans le bateau, et il y a des porteurs qui sont en train de décharger. Hola, qu'est-ce pecan? Quantos kilos?
80, 90, 100.
Wow. Jusqu'à 100 kilos de maïs sur le doigt. 80 et 70 kilos de maïs sur des dos d'hommes, des jeunes garçons qui portent, qui s'échargent. Je suis rentré dans la cale du bateau, j'ai manqué d'ailleurs de tomber dans un trou. Et voilà, la cale est en train de... Enfin, le premier niveau du bateau est en train d'être rempli à mort.
Verdura.
Para Iquitos.
Para Iquitos.
Iquitos.
Ah. Y que más?
Arroz. Arroz. Sí, maíz, verdura y pasajeros.
Pasajeros.
Sí, ah. Eso es lo que lleva de Yurimago a Iquitos.
¿Y sabes cuántos kilos todo?
Toneladas. Un aproximado de 150 toneladas.
Ah, 150 tonnes de marchandises. Incluso las vacas.
Incluido.
Incluido las vacas.
Todo incluido.
Ah. ¿Y para lagunas tiene ropa también? ¿Tiene cosas también?
No, para lagunas solo pasajeros.
D'accord, donc pour lagunas il y a que des passagers.
Es de bodega del barco.
Bodega
del barco.
Voilà, il y a encore le fond de cale avec des bouteilles. La bodega. Il y a des odeurs extraordinaires d'épices dans la cale. Il y a des caisses en bois avec des légumes, des tomates, des salades, des poireaux, des pommes de terre, du maïs, des citrons, des mangues. Esto que sont?
Es este maracuyá.
Ah, maracuyá. Des fruits de la passion. Et cerveza también?
Cerveza, sí. Para la ruta, cerveza. Ah.
Aussi de la bière. Les oignons, maintenant c'est les oignons qui arrivent, on se pousse. On va se faire écraser sous un sac d'oignons de 80 kg.
Quatre zapatillas que debes encontrar en el carro. Ya, yo tengo 5 cajas de banera.
On arrive sur le premier pont, les gens sont déjà installés, il y a des dizaines de hamacs. Les gens sont venus bien à l'avance pour réserver leur place et trouver les meilleurs emplacements pour les hamacs. Là, on va sur le pont supérieur. Voilà, et c'est le moment d'installer les hamacs. Comme on est sur le pont supérieur, c'est plus cher et donc il y a moins de monde. On est très à l'aise et en plus on a évidemment plus d'air du large. Voilà, 14h30, le bateau qui était prévu pour 1h, enfin d'abord pour midi, ensuite pour 1h, part à 2h30.
12h25, oui.
On a à bord une dizaine de vaches et un taureau. Ah, bon, on revient en arrière parce qu'il manquait une moto. Voilà, donc on embarque encore une Honda avec du carton autour, à la destination de Iquitos. Dans le port de Yurimaguas, il y a aussi des citernes de pétrole. Donc c'est du pétrole qui vient de la région d'Iquitos, où il y a des forages. Donc pour les retardataires, il y a encore une dernière chance, c'est de prendre un petit bateau à moteur en hors-bord et de rattraper le bateau, ça arrive, puisque les départs sont tellement incertains, parfois trop tard, parfois trop tôt, qu'on peut toujours utiliser cette possibilité. Voilà, cette fois, c'est le vrai départ. Voilà, le bateau est parti et tout d'un coup c'est plus ou moins le silence, c'est juste le moteur qui ronronne. Le capitaine s'est mis à torse nu. Il amène un banc devant son grand gouvernail, sa barre. Et voilà, c'est calme. Il fait bon, il y a un petit vent, il y a des nuages au loin. Et on est sur le fleuve qui est très large, plusieurs centaines de mètres de large. On a attaché le seul taureau dans l'enclos qui est sur le pont avant du bateau. Donc le taureau est attaché et puis les vaches sont dans l'enclos. Il y a des motos sur le pont avant. On s'est installé chacun son hamac. Là, les hamacs se balancent lentement dans le vent en fait créé par l'avance du bateau. On longe des rives qui sont passablement clairsemées. Et Carlos expliquait que dans toute cette région des grands fleuves, les abords immédiats du fleuve ont souvent été déjà touchés par la déforestation. Et on croise des villages traditionnels avec des huttes en palmiers et en terre.
Et c'est juste extrêmement agréable parce que la température est vraiment juste ce qu'il faut. Et on a obtenu en fait du capitaine qui coupe la musique sur le pont supérieur, grand luxe, parce qu'en général il y a la télé plus la musique à fond. Et ça, je pense que ça gâche un petit peu la contemplation du voyage. Donc voilà, on aurait presque envie de pas seulement faire 12 heures, mais de rester un peu plus longtemps sur ce bateau, voire jusqu'à Iquitos. Là, il y a 2 nuits de voyage et 3 jours de voyage. Mais on va vous en dire un peu plus tard, quand l'heure des moustiques aura sonné. Et comme on n'a pas de moustiquaires sur les hamacs, on verra s'ils vont faire des ravages ou bien si le vent du bateau qui avance les empêchera de nous rejoindre.
Relax sur ce bateau, Stéphane Herzog.
Alors, dès qu'on arrive sur le bateau, c'est bateau à aube, à fond plat, il n'y a presque plus de bruit. On est sur les hamacs, en plus sur la meilleure classe, puisqu'on est au sommet du bateau. Il y a moins de monde qu'on est dans les classes inférieures. Et ben voilà, on a qu'à se laisser bercer et voir l'Amazonie, et voir le défilé. Alors effectivement, c'est un moment parfait, une petite brise qui nous rafraîchit.
Qui vous berce.
Qui nous berce et c'est un moyen, évidemment, le bateau comme ça, c'est le plus beau transport au monde.
Et les moustiques?
Alors je craignais énormément les moustiques et en fait sur le bateau, ils sont pas venus. C'est plus tard, en mettant le pied dans la forêt, qu'on va comprendre petit à petit qu'effectivement, il y a beaucoup d'insectes.
Alors vous êtes sur ce bateau, on l'a entendu, avec Carlos. Il va nous raconter son histoire. Dites-nous en 2 mots qui est Carlos.
Alors Carlos Palomino, c'est d'abord un homme d'une stature incroyable, qui est très impressionnant, comme ça c'est vraiment une tête d'Inca, on va dire. Et c'est un ingénieur zootechnicien qui a fui le Pérou à une époque où il avait quelques problèmes politiques, si j'ai bien compris, pour aller travailler en France et où justement il va rencontrer Hélène Colong. Alors lui c'est un cavalier, Hélène Colong c'est aussi une cavalière, voilà, ils vont se rencontrer à travers les chevaux, les taureaux, dans le sud de la France. Et Carlos a aussi un attachement particulier avec l'Amazonie, puisque enfant, alors qu'il avait 10 ans, il a accompagné son père, ingénieur, dans la région de Tarapoto et de Moyobamba, pour la construction d'une route qui va du Pacifique à la forêt amazonienne. Et il a été piqué un peu par le virus de l'Amazonie. Donc on est en train de descendre avec lui le fleuve Huallaga, et c'est un petit peu son histoire qu'on est en train de raconter également.
Mon père, pendant l'époque des années 60, hein, il a trouvé un travail ici dans l'Amazonie parce qu'il y a à l'époque un coup d'État, hein, militaire au Pérou. Et comme ça, toute la compagnie américaine, ils se sont partis. Et ce sont des ingénieurs péruviens qui sont venus travailler dans la route. Mon père, c'était un fonctionnaire de l'État. Il nous a amené à toute la famille à Tarapoto. Nous sommes arrivés à l'époque d'une autre région totalement différente. C'est la côte péruvienne assez aride, c'est sèche, mais ici, tu vois, c'est l'humidité, c'est la pluie, c'est la tonnerre, c'est un autre monde. En plus, il y a, dans la tradition orale amazonienne, il y a beaucoup de mythes, de légendes que te racontent les gens. Et pour moi, c'était justement la première fois que j'arrivais à l'époque dans les années 60. Donc, il y a une ambiance que j'ai conservée de ça, parce que par exemple dans la vallée de l'Alto Mayo, que je connais beaucoup aussi, ça a changé. Maintenant on peut dire que c'est un endroit qui s'est modernisé, tous les gens connaissent déjà internet, tous les domaines techniques, hein, c'est normal, mais ici c'est une autre chose. Moi quand j'arrive ici, je retrouve cette ambiance.
Est-ce que les gens ici sont différents?
Oui, tout à fait. Ici, l'ambiance amazonienne, ça signifie que les gens Pour moi, je trouve que ce sont des gens plus ouverts, plus honnêtes même. Hein. Il n'y a pas ici les soucis qu'on a dans la grande vie, de que quelque chose te peut arriver par rapport à ta maison, à l'argent. Si tu prends un taxi dans la rue, le taxi, elle, même si tu ne restes avec lui, il t'amène à quelque chose. Hein. C'est-à-dire que c'est une manifestation de certaine honnêteté. Hein, traditionnel qu'il y a ici. Après, si tu demandes quelque chose vite, avec un sourire, il te conteste, il t'oriente dans la ville. Pour moi, c'est justement l'ambiance que toujours rêvé. Hein.
Donc, on est en fait dans la cabine avec le pilote du bateau. Et on est en pleine nuit, il est 19h, on est en train d'avancer sur le Wayaga. Et l'assistant du capitaine voilà, mène le bateau. Et il y a deux hommes en fait de part et d'autre du poste de pilotage qui balayent le fleuve avec des projecteurs très puissants.
Stéphane Herzog, vous n'avez pas rencontré grand monde sur ce bateau?
Alors bon, d'abord, peut-être erreur de navigation, on était en première classe, donc il y avait moins de monde qu'ailleurs. Et puis, j'ai essayé de rencontrer le capitaine, les lieutenants, voilà, on les entend siffler et tout ça. Mais alors, les gens sont enfuis, sont cachés, ont trouvé des prétextes. En tout cas, c'était impossible d'avoir une interview avec eux. Et Carlos m'a dit que c'était peut-être parce que la nuit, quand le bateau est en train de descendre le fleuve, il y a des canots qui embarquent et qui débarquent. Et probablement, il y a du trafic de pâtes de coca. Et de voir des gens qui arrivent avec leurs gros micros et leurs gros pieds poser des questions, c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement welcome. Mm-hmm.
Donc là, arrivé à Lagunas, à quoi ça ressemble cette petite ville, j'imagine?
Voilà, c'est une petite ville de 7000 habitants. Il y a un grand panneau qui marque Lagunas, un panneau un petit peu délavé. Alors c'est un petit peu au bout de nulle part. En plus, on est arrivé à 1h du matin, après une douzaine d'heures de bateau en pleine nuit. Donc on allait en direction d'Iquitos. Alors quelques passagers qui descendent, quelques vaches qui descendent. Et puis c'est une bourgade terreuse, plate, avec quelques tristes maisons en bois. Et puis des jésuites qui ont installé leur église. C'est pas très très riant comme endroit.
Et c'est de là dont nous partirons demain. Pour quelle région?
Alors on va rejoindre des affluents du fleuve Samiraya. On va en fait prendre un mototaxi et s'avancer au cœur de la forêt pour rejoindre une petite rivière qu'on va descendre pendant deux jours.
Arrivé à Lagunas, le long de ce petit rio Wayaga, petit sur la carte en tout cas, si l'on compare ce rio au plus grand fleuve, puis à l'Amazone, de cet immense bassin amazonien. On est au Pérou toute cette semaine, on est au Pérou aujourd'hui, et on y retourne, on y reste avec notre invité Pierre Dubois, explorateur, ethnologue, cinéaste, conférencier, membre de la prestigieuse Société des explorateurs à Paris, de la Société suisse des américanistes, de la Société de géographie de Genève. Vous avez écouté avec beaucoup d'attention, je voyais vos yeux pendant le reportage qui tout d'un coup s'allumait, s'illuminait à tel ou tel moment du reportage. Comment est-ce que vous avez retrouvé des images, des sensations, des sons de cette Amazonie ?
Alors écoutez, quand on est sensible, tous ces sons, toutes ces destinations sont évidemment porteuses. Alors là, je me voyais dans le hamac avec ma moustiquaire, enfin quand il n'y en avait pas. Là, il faut quand même prendre un minimum. Ils vont un minimum avec soi, car généralement, on ne trouve pas toujours tout sur place. Cela dit, évidemment, par le son, je vis ces moments-là. Malheureusement, je n'y étais pas. J'aurais voulu être à ses côtés. J'y étais l'été dernier, du côté sur le Brésil, du côté du... un fleuve très important qui est le Rio Negro, le deuxième plus important fleuve après l'Amazone, hein, au Brésil. Voilà, donc je me revoyais, j'étais à côté d'Herzog et maintenant je suis du côté de la Laguna.
Vous connaissez cette région ?
Alors, je la connais, je ne veux pas vous dire de mensonges, ce n'est pas dans ma manière de travailler, simplement comme j'ai eu l'occasion de descendre le fleuve Amazone. Et donc le fleuve Amazone prend sa source dans la cordillère des Andes, à 5600 mètres d'altitude, dans une montagne qu'on appelle le mont Mismi, voilà. Et ensuite de ça, la rivière, le fleuve va changer 7 fois de nom. Et j'entends par là que le Rio Maranhão est un affluent aussi du futur Amazone. Voilà, donc j'ai vu l'embouchure quand le Maranhão se jetait dans l'Amazone. J'ai vu cette embouchure, j'ai vu ce passage, mais je ne suis pas allé sur le Huallaga, parce que tout à l'heure vous me parliez d'un nom que je n'ai pas très bien retenu. Maintenant, c'est donc le Huallaga. Et j'ai un ami qui a eu l'occasion de faire une expédition assez remarquable il y a quelques années, mais il était vraiment aux sources du Huallaga. Et pour descendre ce Huallaga, il avait construit un immense radeau et sur ce radeau, une maison. Et il articulait ce radeau avec de grandes rames de façon à l'orienter au milieu des rapides. Voilà. Et j'ai toujours rêvé de refaire ce qu'il avait fait. Mais malheureusement, son expédition a connu des vicissitudes, des difficultés, puisqu'il y a eu deux morts. Hein. Donc, on ne sait pas trop bien ce qui s'est passé. Ça se situait donc aux sources de ce Huallaga. Et en approchant la source, donc, les populations de la région, donc, un jour, ont tué deux de mes amis qui faisaient partie de cette expédition. Voilà une petite histoire qui est grave en soi, mais qui fait aussi savoir que les dangers sont là partout où nous allions, que ce soit au Pérou, au Brésil ou encore en Mongolie.
Quand on pense danger Amazon, on ne pense pas forcément aux gens, on pense plutôt à la nature. En même temps, parfois, il peut y avoir des problèmes.
Mais écoutez, vous savez, on arrive dans des terrains qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas... Vivre dans la difficulté, ce n'est pas le propre de l'homme. On croit être à même de surmonter toutes les difficultés qui se situent sur son chemin. Bien non, on n'est pas indien, on est quand même blanc. Même si on croit être un baroudeur, on a des limites. Et l'Amazonie, dans la région où se situe notre ami Herzog, d'abord, il y fait chaud. Il y a de l'humidité constante. L'humidité, qu'est-ce que c'est ? C'est en plein été chez nous, disons, en Lausanne. Eh bien, on va faire 1000 mètres très vite, là, bien habillé, bien au bout des 1000 mètres, vous allez transpirer. En Amazonie, restant sur place, vous allez transpirer. Ensuite de ça, vous y rajoutez une température qui avoisine 27, 28 degrés, qui baisse la nuit, bien sûr, mais là, 27, 28 degrés, eh bien, il fait chaud. Voilà, il fait très chaud. Et cette humide, ça vous colle à la peau et vous perdez, à mon ami, 20, 30% de vos moyens, parce que c'est pénible de pouvoir œuvrer sous ce climat. Voilà.
Ça fait près de 40 ans que vous allez dans l'Amazonie, vous y êtes allé une trentaine de fois. La dernière fois, c'était cet été, vous me l'avez dit. La première fois, c'était en 1972. 13 mois de voyage en solitaire auprès des Indiens. C'était comment cette première fois ?
Alors écoutez, là vous retournez mes tripes, là, parce que d'abord, ça fait longtemps que je n'ai plus parlé de ma première expédition dans cette partie du monde, car c'est un coup de cœur que j'ai, c'est un petit peu comme son premier amour, hein. C'est mon premier amour, et j'ai même pensé que j'allais finir mes jours dans cette partie du monde, parce que d'abord, ça modifie un homme. Et j'ai connu cette région peut-être pas au bon moment, parce que tous les jours sont des bons moments sur la Terre. Il y a une évolution positive, négative, mais il en est ainsi. On ne va pas pouvoir faire grand-chose face à l'évolution, à la déforestation. Et surtout, n'allez pas parler d'arrêter de couper la forêt aux Brésiliens. On va vous donner une demi-heure pour quitter les lieux. Sans ça, on vous tue, parce qu'on ne veut pas de leçons de l'extérieur. Simplement, c'est une réalité. Mais ce qui me fait surtout penser à ces moments que j'ai connus, parce que dans cette expédition de 13 mois, d'abord j'étais en solitaire, je transportais 400 kilos de marchandises. Je me serais passé de ces 400 kilos, parce qu'il a fallu que j'organise mon voyage en fonction de mes kilos. Et c'est pour cela que j'ai donc tracé mon itinéraire essentiellement sur des rivières.
Et comme ça, donc vous êtes mis devant une carte et puis vous êtes dit, ici à Genève, et vous êtes dit, ben voilà, je vais passer par-ci, par-là.
C'était un petit peu plus subtil, mais c'était en réalité presque ça, parce que j'ai donc tracé l'itinéraire, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces 400 kilos? Et dans ces 400 kilos, j'avais pris 50 kilos de riz, j'avais pris tous les éléments de base pour que je puisse tenir le coup. J'aurais très bien pu acheter ça sur place ou dans un comptoir local de la Guyane, puisque donc mon aventure a commencé sur les Guyanes, à l'époque de la fin du bagne, puisque en 72-73, j'arrivais dans cette région pour aller sur le Brésil, et devant moi, des bagnards m'ont accueilli sur le quai de... enfin dans les faubourgs de Cayenne, et le bagne venait de fermer ses portes 15 ans auparavant, et en tant que Suisse, le bagne, je ne connaissais pas, donc ces hommes m'ont marqué, tatoué du haut en bas, et ils m'ont fait comprendre que j'allais au suicide de partir en solitaire dans la grande forêt d'Amazonie, chez les Indiens, et encore au Brésil.
Parce que, alors, qu'on comprenne bien, vous êtes arrivé en bateau, pas en avion, avec vos caisses... C'était quoi, des caisses en bois avec votre matériel, votre caméra 16 mm ?
Mes deux caméras 16 mm, les Bolex qui ont permis toute ma vie de cinéaste en 16 mm de tourner des films qui ont quand même tenu la route. Et j'entends par là que ces caisses étaient du contreplaqué marin. J'avais eu l'occasion de confectionner ces caisses chez un cousin qui était donc menuisier. Et il m'avait vendu le bois, je l'avais découpé, je l'avais cloué et collé. Et ensuite j'avais peint et avec sur chaque couvercle de mes caisses avec des grenouilles, avec un couvercle étanche parce que l'humidité, je savais que j'allais être confronté à l'humidité, à l'eau, aux pluies, parce qu'il pleut beaucoup en Amazonie, heureusement, car sans pluie, il n'y a plus d'Amazonie, c'est la fin du monde. Et ils connaissent un peu ça du reste. Et ensuite de ça, sur mes caisses, j'avais mis un numéro, et ce numéro correspondait au contenu, mais je ne l'avais pas affiché ça de façon à ce que je puisse voyager discrètement. Mais discrètement avec 400 kilos de marchandises, ce n'était pas possible.
Vous aviez un peu peur, vous étiez excité. C'était quoi votre sentiment avant de rencontrer les bagnards?
Alors écoutez, le peu de minutes que on se côtoie depuis quelques minutes, remarquez que je suis un peu excité. Je suis un petit peu hors la loi, simplement. C'est ce qui fait peut-être ma force. Mais non, je crois que je n'ai pas connu la peur. Mais peut-être j'ai quand même connu des difficultés graves. Parce que quand même, lors de cette expédition, eh bien, j'étais considéré comme espion. Et un jour, quand j'étais chez les Indiens Guayana, un mini hydravion est arrivé. Comment a-t-il su que j'étais là? Mystère. Et quand les portes de cet hydravion qui avaient en amérissant à créer des vagues sur cette petite rivière, j'ai cru qu'avec mes Indiens, on allait tous passer à l'eau. Nous étions en train de descendre, assister à une grande fête, la fête du Maraké, une histoire incroyable où il y a une imposition de fourmis sur le corps des jeunes. C'est un stade de l'évolution dans la vie des Indiens. Et là, donc, la porte de l'avion s'ouvre, je vais être très bref, et les militaires armés ont mis un canot à l'eau, sont arrivés vers moi, et m'ont brandi un pistolet sous le nez, un autre m'a pris les mains, les menottes, devant les Indiens qui étaient tout nus, c'était un peu la honte, ils ne savaient pas trop ce qui se passait, ils n'avaient jamais vu un hydravion atterrir sous leur maloca, près de leur maison, de leur village, et j'ai dû me faire comprendre, on savait que m'appelait Pierre, m'a dit Pierre, voilà, on vient vous chercher. On sait que vous êtes. On m'a fait comprendre en portugais, en brésilien, que j'étais un espion et qu'il fallait que j'aille m'expliquer auprès du général des forces armées brésiliennes. Et de là, nous avons fait deux jours de voyage pour arriver jusqu'à Belém. Porte, c'est là où il y a le quartier général des forces armées, de la FAB, Force armée brésilienne, les avions. Et je suis resté un mois enfermé dans une chambre. Et j'ai quand même eu la chance de pouvoir parler un peu au chef qui, lui, avait épousé une Française, donc le général des forces armées du bassin amazonien, ça n'était pas n'importe qui. Et là, donc, il avait épousé une Française, il lui avait fait 9 enfants et il avait adopté 4 Indiens. Donc cet homme m'a reçu plusieurs fois et il a compris qu'il y avait une mésaventure à mon égard, qu'il s'était trompé, qu'il allait me ramener auprès des Indiens. Voilà, mais j'ai pleuré, j'ai souffert parce que, voilà, mon élément, c'était les Indiens et là, on m'avait sorti du contexte amazonien et voilà, c'était des moments de ma vie, mais j'étais marqué parce que quand on vous met les menottes, je peux vous assurer que surtout en Amazonie, dans des coins impossibles, pas de défense possible, la langue étant aussi un handicap. Je venais d'apprendre le portugais. Avec les Indiens, je parlais ni portugais, ni français, ni anglais. C'était un dialecte.
Vous dites comment ?
Alors, comme dans mes bagages, ces 400 kilos, il y avait comme la marchandise. Il y avait du café, il y avait du riz, il y avait surtout des petites perles, de la monnaie d'échange, car ces Indiens, j'en avais besoin. Je ne pouvais pas me déplacer seul. Il fallait que je sois aidé. Et pour me faire aider... Un jour, j'ai ouvert cette sorte de boîte au trésor, cette boîte de Pandore, et à l'intérieur, quand ils ont vu ces petites perles qu'on appelle missanga en portugais, eh bien, j'ai vu leurs yeux comme maintenant, me dit, mais Pierre, vous avez ressenti quoi? Vous avez vu que j'étais tout vitreux, je vibrais d'entendre ce Herzog au cœur de l'Amazonie, alors que moi, je suis à Lausanne, où il neige en ce moment, enfin, c'est presque ça, eh bien, j'aurais bien voulu être à sa place. Cela dit, quand les Indiens ont vu ces perles, ils se sont dit que c'était la monnaie d'échange du moment, et la couleur qui était en vogue, c'était la couleur orange. Et quand je leur ai présenté ça, j'ai vu qu'il y avait un moment d'une manifestation, mais positive à mon égard. Et par ces perles, j'ai pu passer quand même près de 13 mois avec eux, pour vous dire que j'ai...
C'était la première fois qu'ils rencontraient des Occidentaux, des Blancs?
Alors écoutez, dans ma démarche, quand je suis parti chez les Indiens, donc je devais rencontrer trois types d'Indiens. Quand je dis, je m'explique, si j'arrive à m'expliquer simplement. Ils n'ont pas, les Indiens ou les forestiers n'ont pas attendu sur Pierre Dubois pour faire quoi que ce soit. Alors, en débarquant en Amazonie, j'ai très vite remarqué que les rivières étaient réservées à une centaine d'ordres religieux missionnaires différents. Que ce soit des Allemands, des Anglais, des Américains, ils sont tous présents en Amazonie et le gouvernement, j'allais dire, accepte ça. Pourquoi ? Car ces missionnaires ont des moyens financiers. En allant s'installer dans des coins perdus, épouvantables et loin, eh bien le missionnaire va installer une piste pour avion, va donc permettre peut-être aux avions militaires d'atterrir aux frais du missionnaire, pour vous dire que c'est un avantage. Et à l'époque, ils redoutaient les communistes, ils ne voulaient pas des aventuriers, mais ils voulaient surtout des missionnaires, parce qu'on sait qu'ils viennent prêcher uniquement. Et donc par là, donc je me suis rendu compte qu'il y avait des missionnaires partout, donc ça m'a fait mal. Alors donc j'ai passé quelques temps avec une mission allemande auprès d'un groupe indien. Ensuite, je me suis déplacé et là, j'ai rencontré les Indiens libres, Indiens purs et durs. Et la troisième ethnie que j'ai rencontrée, les fameux Yanomami, qui se situent sur le Venezuela. Et là, ils avaient eu peu de contacts. Et en leur compagnie, je suis allé créer un premier contact en tant que sertaniste. Un sertaniste, c'est une personne qui est habilité à faire des premiers contacts par son comportement, même s'il ne parle pas le dialecte local. Mais dans mon entourage, des Indiens pouvaient converser avec moi et parler le dialogue des gens qu'on allait rencontrer.
Quand on vous entend, Pierre Dubois, on a l'impression de revivre Livingstone.
Écoutez, c'est vous qui me rappelez ces moments. Puis
non, on a l'impression d'être au 19e siècle.
Ouais, mais
non,
écoute, je vis dans une.
Partir comme ça avec les caisses en bois,
ouais,
sur les pirogues.
Ça n'a pas changé. Vous savez, si vous pouvez me voir sur le terrain, à l'œuvre, je porte. Bon, mes caisses, je les ai mises de côté parce que des haches, j'avais emporté des poulies pour riper les pirogues dans les rapides. Parce que les rivières d'Amazonie, comme ailleurs, ce ne sont pas des chemins plats où on met les deux doigts dans le nez et ça se passe tout seul. C'est pas vrai. Il y a des rapides, qu'on appelle ça en portugais des cachoues. Mais très importante, 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres de hauteur, avec des. Faut passer les pirogues dans ces rapides. Mais les Indiens ont des techniques où les caboclos, le caboclos est un métis de blanc portugais et de femme indienne. Si vous voulez, en Amazonie, il y a des Indiens à qui appartient l'Amazonie. Derrière ces Indiens, il y a les métis d'Indiens, caboclos. Et ces caboclos, ce sont aujourd'hui des chercheurs d'or, des chercheurs de diamants, des seringueros, des récolteurs de caoutchouc. Ce sont également des ouvriers qui étaient utilisés sur les chantiers de la transamazonienne ou de la périmétrale nord, deux axes routiers importants, 7000 km de long, à droite et à gauche du fleuve Amazon. À l'époque, il y avait une devise « inonder l'Amazonie de population ». Pourquoi ? Car l'ONU avait décrété l'Amazonie patrimoine mondial. Alors, dites à un Brésilien que l'Amazonie ne leur appartient plus. C'était un désordre et ils se sont dit dès ce moment-là, on va amarrer l'Amazonie au reste du territoire. Et dès ce moment-là, ils se sont mis à développer l'Amazonie, aujourd'hui encore bien sûr, mais ils se sont rendus compte qu'on ne développe pas l'Amazonie comme ça, car si on développe, si on crée des routes, eh bien, il faut les goudronner. Car si on ne goudronne pas une route en Amazonie, car c'est de la latérite, rouge hein, ou jaune, eh bien, deux pluies là-dessus, il n'y a plus de route.
Vous êtes allé une trentaine de fois, la dernière fois c'était au mois d'août, la première fois en 1972. Vous avez descendu l'Amazonie depuis sa source qui se trouve quasi sur la côte pacifique jusqu'à l'embouchure, cette immense embouchure de l'Amazone sur l'océan Atlantique. Donnez-nous une image, un souvenir très fort de ces 30 années de voyage.
Mais c'est difficile de répondre, de donner une seule donnée,
un
symbole de ces 30 ans. Mais d'abord, je suis un homme, j'allais dire, qui a de la chance, mais cette chance de vivre d'aventure, qu'est-ce que ça veut dire, voyez-vous ? De vous donner une image de ces 30 ans, ça m'est d'abord impossible parce que, vous savez, j'ai eu les Indiens d'Amazonie, mais je connais d'autres peuplades, les Pygmées par exemple, et tous ces hommes m'ont apporté dans mon fort intérieur une sorte de une lumière nouvelle qui font que je suis devenu un sage, si avant je ne l'étais pas. Eh bien, je le suis devenu de par ces hommes qui, quand on n'a rien, on donne quelque chose, et quand on a quelque chose, on ne donne rien parce qu'on ne veut pas supprimer un des bien-être qu'on a pu acquérir. Voilà. Et puis, comme je vous l'ai dit dernièrement, maintenant je passe quelques mois de l'année chez les Maasai, donc une autre démarche.
En Afrique, ouais.
Ou d'autres populations sur le Rio Homo, avec des populations qui portent des labrets comme des chefs indiens. Donc, c'est des grandes ouvertures sur les lèvres inférieures. C'est une façon de se différencier et de faire peur à l'ennemi. Voilà. Mais j'essaie de pouvoir répondre à votre question dans la mesure de ma possibilité, vous donner un mot pour illustrer 30 ans d'aventure.
Ce n'est pas forcément un mot, c'est peut-être une image, c'est peut-être un son, c'est peut-être une odeur, un souvenir.
Oui, mais permettez-moi, laissez-moi encore le temps.
Alors, on va écouter un peu de musique. Vous êtes d'accord ?
Pour que je puisse quand même avoir un temps de réflexion.
Ça s'appelle Chicha Libre. C'est un disque qui vient de sortir. C'est des Péruviens, ça s'appelle Sonido Amazonico. Ça vient de sortir, c'est Nathalie Schoenberg qui l'a choisi. Pendant ce temps, vous réfléchissez.
A Camel on the Shoulder, Cyril Desprats and Mr. T.
Primavera en la selva, c'est signé Chicha Libre sur la première, avec nous jusqu'à 15h, Pierre Dubois, explorateur, ethnologue, cinéaste, grand connaisseur de l'Amazonie, puisque ça fait 30 ans, que 40 ans même que vous y allez, 30 voyages dans toutes les régions de cet immense bassin amazonien. Alors on en était resté, avant la musique, à une image. Parce qu'on va essayer d'être le plus concret possible, une image d'un des voyages que vous avez fait là-bas.
Alors écoutez, puisqu'aujourd'hui tout est aseptisé, aujourd'hui on sait tout, on connaît tout, eh bien l'image, ce que je vais vous décrire, c'était donc évidemment en Amazonie, bien sûr. Et j'aurais mille choses à vous dire, mais je vais en cibler une. Alors cette image est la suivante. Je vous ai dit tout à l'heure, en préambule, que j'avais été invité par le gouvernement vénézuélien et il délimitait la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Vous vous rendez compte, il n'y a pas longtemps, il délimitait la frontière. Ailleurs, les frontières sont établies depuis des siècles, et bien pas là-bas. Et lors de cette expédition, donc, vénézuélo-brésilienne, d'un côté, il y avait les Brésiliens avec la méthode des siècles anciens, des pantalons en cuir, des chapeaux avec des chapeaux comme les Boy Scouts à l'ancienne. Et de l'autre côté, il y avait les Vénézuéliens, parce qu'ils sont du pétrole, avec des gros moyens modernes, avec des ordinateurs et tout, ce qui n'était pas le cas du côté brésilien. Et j'étais là parce que dans ce territoire, eh bien, il y a énormément d'Indiens Yanomami et les Waika, c'est un sous-groupe des Yanomami. Et donc, on délimitait la frontière la nuit pour pouvoir, avec les étoiles, avec des théodolites, du matériel Kern, à l'époque c'était encore du matériel Kern, hein, suisse. Mm-hmm. Et on devait donc, la nuit, temps dégagé, par trois fois, calculer la longitude et la latitude pour pouvoir définir un point précis. Et dans le coin dans lequel nous étions, eh bien, il y avait les Yanomami. Et un jour, un des grands chefs de cette expédition m'a dit « Pierre, si tu veux, je te mets à disposition plusieurs Indiens qui nous aidaient au milieu de cette expédition folle pour aller créer ce premier contact. » J'ai dit « D'accord. » Alors, nous sommes partis avec des Waikas qui parlaient la langue du groupe, mais ce groupe se situait au fond d'une vallée. Et ce ne sont pas des vallées dégagées, des arbres partout, parce qu'on ne déboise pas là-bas, envahis par les chercheurs d'or maintenant, je crois, mais à l'époque, pas de chercheurs d'or. Eh bien, nous avons mis un jour et demi à descendre jusque là-bas en bas, et les Indiens qu'on devait contacter ont senti notre approche. Donc, ils se sont enfuis. Alors, nous sommes arrivés aux alentours de cette aldeia, de ce village, un tout petit village, avec des grands pans d'écorce pour faire une palissade pour se protéger des bêtes sauvages, des jaguars, je pense, ou des ennemis, parce qu'ils sont souvent en guerre, ces groupes-là. Et puis, les feux étaient encore chauds, les baranes étaient là, ils venaient de partir. Mais, écoutez ce que je vais vous raconter. Un individu était resté et il s'était caché. Et cet homme, à un moment donné, quand je suis arrivé avec quatre de mes aides, il s'est enfui parce qu'on était arrivé dans un endroit où on ne devait peut-être pas pénétrer. Il s'était caché là et il m'a regardé. Il m'a regardé d'une façon tellement profonde que cet homme, je l'ai dans ma tête, et il est parti, il s'est enfui dans la forêt, évidemment, et le contact n'a pas pu avoir lieu. Ils étaient tout nus, ils étaient habillés, peints de noir, c'est la couleur de la guerre. Et donc j'ai cette image-là de cet homme qui m'a, dans le fond de cette maison, le chabaneau, vous savez, le chabaneau, c'est une immense case ronde circulaire avec des grands pans de toit qui montent jusqu'au ciel et au sommet pour que les fumées s'échappent, ne polluent pas l'assistance qui vivent, puisqu'il y a 50 familles qui vivent là-dessous, eh bien, il y a un immense trou et avec l'oxygène et l'échappement des fumées. Et là, cet homme de cette maison s'est enfui et il m'a regardé parce que je n'avais pas la couleur des quatre personnes qui m'aidaient qui étaient indiennes, mais j'avais cette couleur blanche qu'il n'avait jamais vue. Il m'a regardé longtemps, il a pris ses jambes à son cou, son arc et ses flèches et il s'est enfui. Voilà. J'ai cette image qui est restée au plus profond de mes tripes et c'est pour cela qu'au retour d'Amazonie, eh bien, quand j'ai eu l'occasion de faire du papier en tête, parce qu'il faut que j'écrive des courriers, eh bien, le symbole que vous pouvez trouver sur les courriers que j'ai envoyés sûrement, ou je ne sais pas si c'était pas... Je crois l'avoir envoyé à notre sympathique Stéphanie, eh bien, il y a donc cet Indien qui tire une flèche au ciel, et c'est en l'honneur de cet homme qui ne tirait pas d'arc parce qu'il était seul, il n'aurait pas pu me tirer dessus parce qu'il savait qu'on était plus nombreux que lui, mais il tenait toujours un arc de 2 mètres de long, des flèches de 2,50 mètres de long, c'est propre au Yanomami, et il s'est enfui, donc un moment fort qui est là.
Qu'est-ce que vous avez lu dans son regard ?
Écoutez, vous savez que ses ancêtres ont passé l'étroit de Bering il y a 40 000 ans. Et cet homme, les ancêtres des ancêtres des ancêtres, lors de migrations successives, sont arrivés là. Ils ont trouvé la région belle, bonne, prospère, ils s'y sont installés. Et il a dû savoir qu'il y avait d'autres Indiens blancs, faut croire. Je portais un fusil avec moi, bon, je l'avais pas pris, c'était pas nécessaire, mais j'ai dû sûrement... Il m'a interpellé, j'ai été interpellé par ce regard. Et ça ne se décrit pas. Vous savez, c'est comme l'Amazonie. Comment voulez-vous que j'en parle? Il faut y aller. Mais on ne peut pas tous partir ce soir au cœur du Brésil ou du Pérou. Et c'est peut-être pour ça que je suis là, pour venir raconter des aventures ou quelquefois aussi des mésaventures.
Vous le faites aujourd'hui. Vous vivez de ça. Hein, vous vivez de vos livres, vous vivez de vos films, vous vivez des conférences que vous donnez. Est-ce que c'est facile de raconter et est-ce que ce n'est pas frustrant d'être obligé de faire ça pour continuer à voyager?
Alors écoutez, je ne sais pas si des sponsors vont m'entendre ou des hommes de bonne volonté se disent « Tiens, il y a un gars qui essaie de ne pas sauver la planète, d'autres le font mieux que moi, simplement. » Je vous ai dit dès le début de cette discussion que ce qui m'intéresse, c'est l'homme, parce que où qu'il soit, il est passionnant. Les peuples sont extraordinaires, il n'y a que quelques gouvernements un petit peu particuliers. Cela dit, l'homme, où qu'il soit, est extraordinaire, mais voilà, il est persécuté, il est éliminé. Quand par exemple, un président africain sait que sur son sol existe encore des gens qui n'ont aucun contact, évidemment, sont nus. Si par malheur le gouvernement est tout sauf tolérant, eh bien, on va tout faire pour aller islamiser, puisque c'est le cas d'une région du Sud-Soudan, d'aller islamiser ces populations. Ces populations, je vais la citer, ce sont les Nouba.
Vous êtes allé, vous avez fait
les Nouba, c'est des géants de 2,20 mètres de hauteur. Ils vivaient comme il y a 3 siècles, il n'y a encore pas longtemps. Et je sais que le gouvernement de Khartoum est arrivé avec les Kalachnikovs et a interdit des coutumes millénaires. Et quand on sait comme les chrétiens sont arrivés tardivement sur cette terre, les musulmans aussi, de quel droit avons-nous de dire que nous sommes les meilleurs et qu'il ne faut écouter que nous? Il y a des hommes sages et toutes les tribus sont des sages. Simplement, on les a tellement persécutés, on les a anéantis qu'aujourd'hui elles se rebellent, et quelquefois quand on envoie des émissaires pour créer des contacts, et puis on les tue, mais c'est une revanche, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas faire autrement que quand on a un arc et une flèche face à des hommes armés, que voulez-vous faire? Voilà, l'histoire elle est terrible, mais je crois qu'il y a une certaine dignité, et de savoir que des hommes vivent encore aujourd'hui comme il y a des siècles, on doit les préserver. Au milieu d'un sous-sol riche où il y a de l'uranium, de l'or, des diamants, il y a de la place ailleurs pour aller extraire cette matière première. Mais le drame, il est terrible, parce qu'un exemple, et ça peut-être le bout de la fin, quand on sait qu'on a besoin d'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires, puisqu'il s'avère que c'est une des énergies terribles, mais dont on a besoin, et qui, aux premiers yeux des hommes, ne pollue pas, c'est quelque chose de faux. Mais il en est ainsi. Et de savoir que sous le sous-sol amazonien, il y a cet uranium, et que sur la forêt, il y a les Indiens, qu'est-ce qu'on fait? On déplace les Indiens, les déplacer égale la mort de la tribu, ou d'aller évidemment déplacer l'Indien, tant pis, extraire cette marchandise qui est la manne de ce siècle et de faire tourner nos centrales nucléaires pour qu'on ait une chaleur l'hiver. Voilà.
Merci beaucoup Pierre Dubois d'avoir passé cette heure avec nous. Plus d'informations sur vous, sur vos livres, sur vos conférences aussi, sur notre site internet dromadaire.rsr.ch. On a mis un lien sur votre site à vous. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent après-midi.
Merci Cyril.
Et puis demain, on ira tout près de ce petit village de Lagunas. On ira dans une réserve naturelle, un endroit complètement protégé qui s'appelle Pacaya Sameria. Voilà, merci aujourd'hui à Samuel Morier-Genoux en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, à Nathalie Schoenberg qui choisit les musiques, Denis Sulam, responsable de notre site dromadaire.rsr.ch, et Monsieur T, bien sûr, qui a réalisé les carnets de route. Après les informations, vous avez rendez-vous avec Histoire vivante de Jean Leclerc qui revient toute cette semaine sur les phénomènes migratoires. Stéphane Herzog, Cyril Desprats, excellent après-midi. Il va être 9h du matin à Lagunas, dans l'Amazonie péruvienne, 15h sur la première.